plusieurs façons, dont la répétition et donc l'apprentissage par cœur est également nécessaire. Mais je pars du principe que pour être efficace, la mémorisation doit être active. Donc on doit mettre l'enfant en situation d'aller construire ses stratégies et que ce ne soit pas uniquement de l'entraînement, parce qu'on a coutume de dire que la mémoire, ce serait un muscle, par exemple, qu'il s'agirait de l'entraîner. En fait, non, pour moi, c'est plutôt les performances de la mémoire qu'on peut améliorer en apprenant, en aidant les élèves à mieux se connaître. Par exemple, tout à l'heure, on avait un échange en disant que certains élèves vont mieux retenir ce qu'ils vont voir, d'autres mieux retenir ce qu'ils vont entendre. Donc, on essaye de travailler sur ces différents champs-là et d'amener les enfants à enrichir leur répertoire de stratégies à mettre en place pour mémoriser. Ça passe par le sens, c'est ce qu'on a montré avec l'expérience qu'on a fait tout à l'heure. Donc, s'il y a du sens derrière ce qu'on leur fait faire, évidemment, c'est plus facile de mémoriser. Ça passe par la mise en réseau des informations, des notions qu'on leur apprend. Par exemple, un enfant, au lieu de lui dire est-ce que tu as compris, on peut peut-être davantage lui demander à quoi ça te fait penser quand on te parle, je sais pas, de la guerre 39-45. Mais par contre, on n'en oublie pas l'apprentissage par cœur. Alors, pour citer l'exemple des tables, par exemple, je pense que c'est un apprendre. On peut pas y échapper. Mais si on a aidé l'enfant à construire, à apprendre ses tables en ayant des stratégies et qu'il puisse retrouver le chemin pour qu'il a suivi pour parvenir à ça. À les savoir, ça va favoriser après le fait que pour moi, ça vienne instantanément. Voilà. Je sais pas, j'ai.
Alors, je.
J'ai répondu.
Passe à une autre question, un peu plus anecdotique peut-être. L'expression avoir une mémoire d'éléphant est-elle fondée? C'est-à-dire que est-ce que vraiment l'éléphant a une mémoire hors norme? Et d'un point de vue plus général, est-ce que la mémoire est une stratégie de survie chez les espèces animales?
Est-ce qu'il y a un spécialiste des éléphants?
Question piège.
Moi, je suis. Ça va être difficile de répondre. Ce que je peux dire sur la mémoire, c'est pareil. Quand on va comparer les mémoires des animaux, les mémoires de l'être humain, c'est peut-être là qu'il y a beaucoup de différences. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, tout le moins, les mécanismes, ce que disent certains chercheurs, pareil, je ne vais pas aller trop loin parce que ce n'est pas ma spécialité, ce que j'ai lu dans le domaine de la recherche, c'est que c'est un domaine où les modèles animaux qu'on utilise pour comprendre comment fonctionne la mémoire, en fait, ne sont pas toujours adaptés au fonctionnement de la mémoire humaine, dans le sens où il y a des particularités liées justement avec cette mémoire épisodique qu'on ne va pas retrouver. Alors, chez l'éléphant, je ne sais pas, mais sur des espèces, même sur l'éléphant, je pense qu'il n'y a pas de mémoire épisodique, je ne sais pas. Mais après, il va falloir un spécialiste de la mémoire chez les animaux, mais on ne va pas avoir obligatoirement tous les systèmes de mémoire et toutes les caractéristiques du fonctionnement mnésique qu'on a chez l'homme. Donc après, vouloir comparer les espèces entre elles, ça me paraît compliqué. Les mécanismes de base fondamentaux vont être les mêmes, les processus, les relations entre les synapses, on va pouvoir modéliser à ce niveau-là, mais sur les niveaux un peu plus macroscopiques, sur comportementaux, je ne suis pas sûr qu'actuellement il y a vraiment des travaux de comparaison, qu'il y a des facilités pour faire ces comparaisons. Mais je réponds qu'à moitié parce que je ne suis pas à l'aise. Mais comme les collègues ne voulaient pas répondre, je vais improviser.
Alors, ce qui veut dire qu'il faut être très prudent dans la transposition des expériences sur les rats ou les crabes ou les salamandres ou autres, la transposition sur l'homme. Il faut être très prudent.
Ça dépend à quel niveau. Oui, tout à fait. Et ça va dépendre après à quel niveau on regarde. Si on veut regarder l'action de certains récepteurs, là, on peut généraliser. Mais pour d'autres choses, il faut être très, très prudent. Ouais.
Les aspects sensoriels sont très différents d'une espèce à une autre. Même au niveau de la vision, puisque la vision, c'est pas la même. On ne perçoit pas les mêmes ondes lumineuses.
Ah ouais, non, je pense que c'est très différent.
C'est moi. D'accord.
Non, pas d'idée.
La question que je voulais poser, c'est... Par exemple, je pars d'une expérience personnelle. Quand j'étais enfant, on m'a toujours dit mieux vaut se lever le matin à 5 heures du matin pour apprendre mes leçons. C'est que c'était mieux que de rester le soir jusqu'à tard le soir pour apprendre. Et donc, ce que je voulais demander, est-ce qu'il y a vraiment des périodes où la mémoire est plus fertile ? Merci.
Bah en fait, c'est l'inverse. Hein. C'est qu'il vaut mieux apprendre vos leçons le soir. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pendant qu'on dort, il y a un travail, un enrichissement qui se fait, un travail qui se fait. Et donc, au contraire, il vaut mieux lire une poésie que vous n'avez pas eu le temps d'apprendre la veille de la réciter que le matin même. Vous avez plus de chances de vous en sortir. Donc, au contraire, on fait des maths le matin et on mémorise plutôt dans la fin d'après-midi. Et par contre, il faut se coucher tôt pour bien mémoriser. Donc, il faut gérer le temps.
Bonsoir. Depuis le début de la soirée, je vous entends dire on stocke la mémoire, on restocke la mémoire. Mais au final... Où est-ce qu'on enregistre dans le cerveau ? C'est un problème neuronal, c'est un problème chimique, c'est des pensées qui se baladent dans le cerveau. Vous dites qu'il n'y a pas de zone spéciale. Comment est-ce que les données sont stockées ? Est-ce que c'est comme dans un ordinateur ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce qu'on ne sait pas ?
Donc on en avait un petit peu parlé, l'idée n'est pas celle d'un stockage, mais c'est de la mise en place d'un réseau de neurones éventuellement disponible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir le souvenir comme quelque chose de figé, mais plutôt représenté par une assemblée, un ensemble de neurones qui, potentiellement, peut être activé. Alors, soit à la demande, je vous demande, rappelez-vous tel endroit, tel événement, etc., vous allez le chercher, soit de façon involontaire parce que vous tombez sur un des nœuds du réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est que ce réseau qui est fortement connecté si le souvenir est très ancré. Hein, donc, Maître Corbeau sur un arbre perché, encore une fois, le passage de mot à mot, vous pouvez le voir comme un guidage des neurones qui fait que le neurone maître, le neurone corbeau, le neurone sur un arbre perché, tous ces neurones se sont connectés grâce à la plésie, grâce à l'escargot de mer et à la potentiation à long terme, hein, grâce à la théorie de la mémoire de Kandel. Donc ce circuit est très connecté, ce qui fait que vous rappelez bien mettre un corbeau sur un arbre perché et pas mettre fromage sur un corbeau perché, par exemple, parce que là, tout de suite, les neurones, c'est pas cela, quoi, c'est pas bon. Donc ce souvenir, vous allez le retrouver en activant ce réseau. Donc il faut que ce réseau soit disponible, bien sûr, ça veut dire que le souvenir, vous l'avez, hein, il est là. En tout cas, il est refabriqué avec la répétition que vous avez fait. Et puis, comme je vous disais un peu au début, c'est un souvenir qui est le souvenir du souvenir. Hein. C'est comme ça que je me rappelle que ça s'était produit. Et c'est en suscitant cette activation dans ce réseau que vous allez recréer un souvenir. Donc, effectivement, le terme de stockage, mais on s'en est un peu défendu hein, depuis le début, il n'est pas très approprié parce qu'on ne stocke pas le souvenir comme dans un grand hangar où on a nos souvenirs bien rangés.
Mais il y a quand même, enfin, ce réseau, il a quand même une réalité dans le cerveau, une réalité matérielle. C'était peut-être un peu votre question. Dans le sens où c'est quand même des structures qu'on connaît, qui sont organisées pareil chez tous les individus, globalement. Et par exemple, on sait que la mémoire, on parlait de mémoire visuelle et mémoire verbale. La mémoire verbale, il faut retenir que c'est plutôt le cerveau gauche qui s'en occupe. La mémoire visuelle, c'est plutôt le cerveau droit. Et vous avez quand même un mode d'entrée par cortex entorhinal, ça passe par l'hippocampe et tout le système limbique, avec le fornix, les corps mammillaires, il y a aussi l'implication du thalamus. Enfin, il y a des zones cérébrales importantes au départ pour mettre en route l'information qui vont se relier ensuite au cortex. Et ces réseaux-là, ils existent. Et si on les interrompt, et c'est le cas dans certaines maladies, la mémoire ne fonctionne plus. Donc à un point donné. Par exemple, si on prend trop d'alcool et qu'on n'a plus de vitamine B1, les corps mammillaires sont détruits et la personne pourra à ce moment-là plus jamais mémoriser parce que le circuit ne peut plus fonctionner. Donc c'est vrai que c'est un réseau, mais il a une réalité anatomique.
Merci.
Ma question revient un petit peu à ce que vous venez de dire par rapport à une intervention chirurgicale. Est-ce que vous pensez qu'après, pour chez un adulte qui a subi une intervention chirurgicale au cerveau, qui a perdu une partie de ses facultés, notamment la mémoire ou ainsi de suite, est-ce que la mémoire peut être reconstruite? Et jusqu'à quel âge il peut encore reconstruire sa mémoire?
La question est floue. D'abord, c'est qu'est-ce que vous appelez reconstruire? C'est reconstruire les souvenirs anciens. De quelle mémoire parlez-vous? Enfin, voilà,
quelqu'un qui a subi une opération au cerveau et qui a perdu une partie de ses capacités de sa mémoire ou de sa...
C'est-à-dire de mémoriser quelque chose de nouveau ou de se souvenir
de tout ce qu'il a appris auparavant et qu'il, par sa rééducation, il reconstruit son acquis. Est-ce qu'il peut récupérer tous ses acquis et jusqu'à quel âge il peut encore reconstruire ses capacités?
Je ne peux pas vous donner des réponses absolues, c'est impossible parce qu'il faudrait un cas précis à sa réponse et on ne peut pas toujours la prédire en plus. Donc je ne vais pas pouvoir vous répondre réellement. Maintenant, reconstruire sa mémoire, ce n'est pas la même chose que la récupérer. Donc reconstruire, on le fait en rééducation, mais ce n'est pas forcément la même chose que de récupérer ses souvenirs, parce qu'il va manquer, c'est vraiment construit, c'est artificiel en fait. Donc c'est la même c'est pas la même chose que de récupérer sa mémoire. Après, sur l'âge, il n'y a pas d'âge absolu, mais c'est vrai qu'un enfant, on le sait par exemple chez les enfants qui sont victimes de maltraitance, quand ils sont petits et qui ont des lésions cérébrales, ils ont une capacité de récupération qui est absolument formidable. Et des fois, quand on voit à l'âge adulte, on voit leur cerveau, on se dit mais comment c'est possible que ça fonctionne alors qu'il leur manque tant de cerveau. C'est beaucoup moins vrai plus on avance en âge. Voilà. Je ne sais pas si ça répond.
Non, un peu dans le même sens. C'est-à-dire que la question elle est compliquée parce que si vous avez des lésions cérébrales à certains endroits, les conséquences vont être liées à la localisation de ces lésions. Donc si vous avez, par exemple, des ondes du cerveau où une partie des souvenirs épisodiques, je dis bien une partie ou un aspect de la mémoire épisodique est lésée, ça, vous allez le perdre et puis c'est perdu. Si c'est des lésions qui sont plus frontales, ça sera dans les mécanismes de récupération de recherche en mémoire. Donc ça va dépendre des lésions et les mécanismes de récupération vont dépendre de ces lésions et de la nature des informations que vous voulez récupérer. Par contre, quand des souvenirs épisodiques par lésion sont vraiment perdus, ce qu'on peut, c'est reconstruire des souvenirs, mais ça, ce n'est pas les mêmes par définition. On va réapprendre des choses, mais ça ne sera pas les mêmes choses. Donc c'est vraiment quand vous posez la question, derrière, il y a la notion que la mémoire, elle n'est pas unique. On ne perd pas la mémoire, ou je ne sais plus comment vous avez formulé. Pour nous, elle n'est pas unique. Donc pour nous, c'est très difficile de répondre, parce que derrière la mémoire, il n'y a pas un système, il y a tout un ensemble, il y a tout un ensemble de processus, de fonctions, de mécanismes de récupération, d'encodage, de stockage, et les lésions vont toucher une partie ou une autre partie de ces mécanismes. Donc c'est très difficile de répondre à cette question.
Mais pour dire encore un mot sur la réparation, il y a une découverte qui finalement est assez récente, qui est celle des cellules souches, qui est le fait qu'on sait aujourd'hui que dans le cerveau humain, y compris le cerveau adulte, y compris le cerveau âgé, il existe un contingent de cellules qu'on appelle cellules souches. Ce sont des cellules qui ne sont pas encore différenciées en neurones, par exemple, ou en cellules de la glie. Et ce contingent, il est situé à des endroits très précis dans le cerveau, et notamment, de façon sûrement pas inintéressante, dans l'hippocampe. Donc on ne sait pas encore du tout à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on a des cellules comme ça qu'on appelle pluripotentes, c'est-à-dire qui peuvent donner beaucoup de types cellulaires différents, y compris des neurones. Pourquoi est-ce que c'est là? Est-ce que ça a une fonction de réparation comme ça? Est-ce que ça a un rôle avec l'âge de reproduire du neurone, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le dogme, c'était on est avec un contingent de neurones et puis on les meurt, enfin, puis ils meurent et puis on les perd au fur et à mesure et la vie, c'est perdre ses neurones, en gros. Là, maintenant, on dit c'est peut-être pas si simple que ça, puisqu'on a un petit contingent de cellules qui est, en gros, des cellules qui peuvent se différencier et recréer du neurone, y compris chez quelqu'un d'âgé. Donc, pour réparation, etc., il y a ce contingent-là dont on découvre actuellement les possibilités de réparation.
D'autres questions
Oui, on a parlé jusqu'à maintenant
de la mémoire, mais quid de l'amnésie ? Perte de mémoire.
Alors, qui va nous en parler ?
Ben, il y a autant d'amnésie que de mémoire différente. Hein. On a dit qu'il y avait beaucoup de mémoires différentes. Il y a aussi des formes d'amnésie extrêmement différentes. Alors, ben, on peut parler des... Philippe Gontier parlait des amnésies, disons, fonctionnelles, ou je ne sais pas comment tu qualifies ces amnésies sélectives, psychogènes. Je ne sais pas, on peut dresser un peu un panorama des différents types d'amnésie.
Oui, effectivement. Alors, les amnésies traumatiques, on a parlé bon, des lésions. Après, il y a 100 lésions. Bon, c'est là que nos champs se rejoignent, mais sont très différents dans la perception. C'est qu'il y a effectivement des personnes qui n'ont aucune lésion cérébrale, ni diagnosticable, ni visible dans l'imagerie, et qui pour autant ont oublié quelque chose, sans avoir une atteinte liée à l'âge, sans avoir quoi que ce soit qui soit démontrable. Et je parle toujours de l'expertise, parce que c'est là que les réponses sont le plus difficiles à donner, où les questions sont le plus précises. Alors, qu'en est-il de ces amnésies ? C'est vrai que la question de l'oubli, on en parlait tout à l'heure en aparté à la pause, on parle beaucoup de la mémoire, où elle se stocke, comment elle fonctionne, mais qu'en est-il de l'oubli ? D'abord parce que sans oubli, il n'y a pas de mémoire. Et on imagine que si la mémoire prodigieuse qui fait envie à certains, comment la développer, bon, pour le musical, c'est intéressant, ce serait invivable. Donc il y a une nécessité qui paraît assez évidente, c'est qu'il faut forcément oublier aussi beaucoup de choses. Alors pourquoi ? Et pour moi, dans ma pratique, forcément, qu'est-ce qu'il en est du souvenir traumatique, des souvenirs d'enfance, des scènes vécues ? J'entends assez régulièrement, j'aimerais bien oublier. Et on dit, on n'oublie pas. Donc les amnésies qui sont catégorisées en liaison avec des symptômes ou des syndromes, c'est vrai que l'amnésie liée à une alcoolisation, l'amnésie, vous avez parlé des psychotropes, des effets chimiques sur les processus, et le souvenir, c'est le souvenir du souvenir. Donc il peut y avoir une fonction protectrice, mais la plupart des mécanismes, ben, par définition, ne sont pas conscients. C'est pour ça qu'il est très difficile de les catégoriser, mais pour nous, il y a aussi une fonction protectrice de l'amnésie, qui est réclamé pour les gens qui souffrent. Les syndromes post-traumatiques, c'est ça. La reviviscence du souvenir, les cauchemars qui répètent sans arrêt la scène. Et le travail se fait là-dessus pour petit à petit reformuler le souvenir, essayer de le déconnecter de certaines circonstances. Mais on n'a pas une réponse sur l'amnésie, mais beaucoup de questions sur la fonction, surtout pour ce que ça apporte au sujet, dans son mieux-être, son mal-être, sa souffrance. Et il y a des amnésies sélectives... Ben, ça, tout le monde le voit. Ah tiens, tu te rappelles que de ce que tu veux bien te rappeler. Ce qui n'est pas forcément volontaire. Donc voilà, cette question vaste. Et, de toute façon, là, il n'y a pas de réponse neurologique, puisqu'on a parlé de la mémoire normale dans ces processus, des mémoires atteintes par des lésions. Là, il n'y a pas de lésion. Alors, il n'y a pas de lésion visible, et parce que ça peut se reconstituer. Quant à l'amnésie au sens large, le voyageur sans bagage, l'amnésique totale, bon, il y a des cas qui ont été décrits, ça, c'est extrêmement rare, enfin, on n'a pas rencontré. Alors, la question de l'amnésie brève, puisque mon voisin m'induit là-dessus, quand on parle... Merci pour les questions qui permettent de développer. L'ictus amnésique, c'est comme un accident vasculaire cérébral. Il y a quelque chose qui brutalement disparaît, c'est extrêmement bref. Un ictus, une crise, une suspension. Ça se voit aussi dans l'après-coup, on le sait par rapport aux intoxications, ce qu'on appelle le palimpseste, par exemple, dans des intoxications alcooliques aiguës, où la personne dit oh, « je sais d'où je suis parti, je me suis réveillé là, entre deux, je ne sais pas ». Bon, c'est classique, ça, c'est plus gênant quand il y a eu des faits pendant cette amnésie-là. Dire ah, « ben oui, il ne se rappelle plus, c'est dommage ». Est-ce qu'il y a, à propos du pénal, est-ce qu'il y a responsabilité pénale s'il y a amnésie de la chose ? Est-ce qu'il y avait conscience ou pas, à partir de quel moment on peut s'abriter derrière ? Mais c'est vrai que c'est reconnu. Et le palimpseste, c'était simplement le papyrus égyptien sur lequel on écrivait au tout début, quelque chose de très fin, très fugace. Mais ça, c'est une réalité clinique qu'on a tous, autant neurologues que psychiatres. Donc il y a des suspensions brèves, et puis il y a des pans entiers d'histoire. Alors est-ce que les pans entiers d'histoire oubliés sont liés à des facteurs émotionnels affectifs qui en eux-mêmes ont une charge psychique, puisque bon, ben, on a l'idée d'un appareil psychique hein, dont on ne connaît pas, et ça se rapproche des collègues des neurosciences, dont on ne connaît pas forcément le fonctionnement, mais c'est une réalité clinique quotidienne, des pans entiers de l'histoire, qu'on peut retrouver mais c'est le souvenir que la personne finit par retrouver. C'était l'hypothèse au départ, des premiers travaux finalement qui ont fait référence et qui sont un petit peu décriés maintenant, pas pour ma part, parce que ça peut se rejoindre. Ben, c'est Freud qui a le premier travaillé sur la fonction de l'amnésie, le pourquoi dans la construction du sujet. Donc effectivement, différents types d'amnésie, mais quand elles ne sont pas neurologiques, c'est-à-dire qu'on n'en a pas prouvé l'origine lésionnelle, on est amené à concevoir qu'il y a des protections psychiques, il y a des suspensions de souvenirs pour que le sujet n'en souffre pas définitivement.
Bonsoir. Puisque vous parliez d'oubli, comment la mémoire peut-elle court-circuiter le vécu par l'imaginaire? Je m'explique. Ça m'est arrivé que très rarement, mais je côtoie des personnes à qui ça arrive de temps à autre. Elles doivent se rendre dans un endroit qui, pour elles, est totalement nouveau. Elles n'y sont jamais allées. Par exemple, elles doivent prendre le train, se rendre dans une ville. Et avant l'action, bon, elles vont s'imaginer, elles vont se faire des petits films, en dire tiens, la gare, elle va être comme ça, et après comme ça, comme ça, comme ça. Bon, bien entendu, comme personne n'est devin, lorsqu'ils arrivent, la réalité ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé. Plusieurs mois, plusieurs années plus tard, vous leur demandez de vous décrire comment était la gare, comment était la ville et tout. Ils vont vous décrire ce qu'ils ont rêvé, ce qu'ils ont imaginé, et pas du tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'il s'agit des mêmes processus cognitifs qui rentrent en compte dans un lavage de cerveau dont on parlait tout à l'heure, par exemple?
Ouais. Bon, le lavage de cerveau, c'est ce qu'on appelle lavage de cerveau, c'est particulier, c'est supposé qu'on enlève tout. Puisque toutes les métaphores sont informatiques, c'est le reformatage total, on enlève tout et après on remet ce qu'on veut. Maintenant, la question que vous posez, c'est ma pratique quotidienne. C'est vrai qu'effectivement, ce qui fait trace, hein, la question de, comme disait Roussillon, qui était un psychiatre, au demeurant psychanalyste, qui disait qu'en fait, on souffre de réminiscence et que c'est la reconstitution du souvenir qui guérit. Bon, ça, c'était l'époque de l'abréaction, on a oublié quelque chose. L'hypnose, c'est justement dans la réponse à votre question aussi. L'hypnose, en suspension de la conscience, peut permettre d'accéder à certaines choses, mais aussi d'induire. Et ce que vous dites, c'est... J'ai atteint mon temps de parole, non, c'est bon. Donc... Dans la question de l'imaginaire, alors pourquoi l'imaginaire court-circuite la mémoire? Qu'est-ce qui fait que le sujet, ça c'est une question philosophique, est-ce qu'on a affaire à la réalité ou à la représentation qu'on s'en fait? C'est vrai pour le fait psychique. Ce n'est pas les faits en eux-mêmes, c'est le rapport qu'on a au fait. Et ce que vous dites là sur cet exemple-là, ce n'est pas un interrogatoire photographique, c'est l'émotion, la projection, et qu'est-ce que le sujet peut dissocier ensuite ou reconstituer, ce qui est vraiment de l'ordre des choses observées, dans tout le sensorium, perçu, ressenti, parce qu'il est rarement, il est rare qu'on ait une perception isolée. C'est ce que disent les collègues neurologues. L'essentiel, ce sont les associations. Autant dans le langage, les accès au langage et la superposition, c'est pas court-circuité, c'est transformé de ce qui est projeté, de ce qui a été vécu, et puis une tendance qu'a le cerveau à se former des réalités en fonction de ce qui devrait être ou de ce qui voudrait qu'il soit. Non, ça, c'est toute la question psychodynamique.
Ouais, juste pour aller un peu dire autrement, pour moi, ce n'est pas un court-circuitage, c'est simplement, ça illustre justement que la mémoire est une reconstruction. Donc, vous allez reconstruire des événements en fonction de vos façons de penser, de voir les choses, en fonction de la réalité, puis il va y avoir un équilibre entre les deux, donc c'est une reconstruction. Ça illustre parfaitement ce qu'on dit sur la mémoire, qui n'est pas simplement une copie de la réalité. Donc ce n'est pas un court-circuitage.
C'est toute la thématique des faux souvenirs, notamment Elisabeth Loftus et les travaux de Loftus. Moi, j'ai une petite anecdote en passant. Ma femme me dit « va chercher le landau chez un copain ». Donc, je prends la voiture, je vais chez lui, et puis on discute un petit moment devant le garage, et puis je reviens. Et ma femme me dit « mais où t'as mis le landau ?» Quel idiot, mais alors vraiment, quel idiot. J'ai complètement oublié de... Je suis allé le voir, de discuter, puis je suis revenu, et puis j'ai oublié le landau. Et puis un peu plus tard, elle me dit « mais non, en fait, tu l'as ramené il est dans le garage. » Et à ce moment-là, au moins, elle me dit ça. Tout d'un coup, j'ai l'illumination. Je me vois prendre le landau et le mettre dans le coffre. C'est-à-dire que j'avais oublié ce souvenir parce que je m'étais raconté un petit peu une histoire complètement fausse à propos de moi, qui était que j'étais un peu tête en l'air, que j'oubliais les choses, qui était absolument faux.
C'est moins grave que d'avoir
D'autres questions ?
Est-ce que fumer un joint de façon répétitive affecte la mémoire ?
Qui répond là ? Qui va répondre ?
Fumer un joint de manière répétitive, ça veut dire fumer plusieurs joints ou tirer sur le même ?
Non, fumer régulièrement.
Ah oui, ben alors là, l'expérience montre qu'il y a double problème. D'abord, ceux qui fument, bon, on parle du cannabis. Hein. Il est réel que quand on, dans les tests, et le plus important, c'est que le fumeur ne le pense pas, que ça altère justement ses fonctions amnésiques. Ce qui n'est pas le cas de celui qui boit, qui s'en rend compte. Il dit, j'ai oublié, j'étais bourré, j'ai oublié. Alors oui, effectivement, ben alors c'est la quantité dans la régularité, mais on voit tous, et je pense que c'est vrai pour les parents, pour les enseignants, que la consommation régulière et importante de cannabis a un effet d'altération sur la concentration, sur l'attention. Donc c'est ce que disaient les collègues, c'est sur ce facteur-là. Il n'y a rien de lésionnel a priori, mais c'est certain que c'est un fait observable. D'ailleurs, dans le décrochage scolaire, la perte d'intérêt... Ça paraît assez évident sur un plan clinique quotidien. Maintenant, les mécanismes chimiques, je ne suis pas addictologue dans les récepteurs, mais je pense que c'est maintenant, les travaux le confirment.
Oui, oui, c'est aussi, c'est vrai que par contre, ça a aussi un effet sur la motivation, beaucoup le cannabis, et ça impacte sur la mémorisation, le fait d'être motivé. Comme l'émotion impacte sur la... Les émotions ressenties impactent aussi sur la mémorisation. Alors peut-être des fois en transformant le souvenir, mais des fois aussi en le renforçant.
L'exemple sur l'émotion et la mémorisation, c'est l'exemple qu'on donne classique, c'est ce qu'on appelle la mémoire flash. Si je vous demande ce que vous faisiez le 11 septembre au moment où vous avez appris l'accident, la plupart d'entre vous se souviennent assez précisément ce qu'ils font. Tout le monde, du moins certains, auront des faux souvenirs, mais la majorité vont se souvenir exactement avec un sentiment très fort de réalité et de vécu. Alors on pourrait, pour ceux qui sont très anciens, on pourrait demander la mort de Kennedy, sur des événements qui ont été des marqueurs sociaux à un moment donné, vous avez un souvenir du moment où vous l'apprenez, de ce que vous faisiez, de ce que vous étiez en train de faire. Ce qu'on appelle la mémoire flash.
Oui, oui, moi je voulais, en fait, techniquement, je voulais savoir si on pouvait différencier le fait de se rappeler quelque chose par simplement la volonté, en disant je vais apprendre cette leçon, je vais l'apprendre, je sais que je vais l'apprendre, et puis une construction qui serait, enfin, une mécanique qui serait la reconstruction. Sans volonté au départ. Par exemple, on prenait l'exemple de la liste des 10 chiffres à mémoriser. Là, vous nous avez dit, vous allez mémoriser ces 10 chiffres. Vous nous avez donné deux techniques différentes pour la liste des 10 chiffres. Mais si, par exemple, on nous avait demandé d'inventer une liste de 10 chiffres sans nous dire qu'on allait la mémoriser. Donc, on aurait produit la liste de 10 chiffres. Et à l'autre partie, on aurait dit, ben, vous apprenez les 10 chiffres. Et avec le même temps de préparation de cette liste, est-ce qu'on peut différencier le résultat de mémorisation pour le rappel des 10 chiffres ? Quelle est l'efficacité ?
Bien sûr, parce que dans le deuxième cas, vous avez une tâche... Une tâche de mémorisation. Derrière la tâche de mémorisation, il y a quelque chose qui est très important, dont on a déjà un peu parlé, qui est la motivation. C'est-à-dire que si je vous dis, retenez cette liste de 10 chiffres, et si vous y arrivez, je vous donne 100 euros, les résultats seront encore meilleurs. Hein? Donc, plus vous êtes motivé, bon, déjà, si vous venez à une soirée sur la mémoire, c'est que le sujet vous motive, donc vous allez faire volontiers cette tâche d'apprentissage des 10 chiffres. Si je fais le même test dans le bus... Je pense que les gens vont participer avec moins d'entrain. Donc la différence entre susciter une liste comme ça, sans but précis, et apprendre la tâche, la différence, c'est la motivation à retenir les éléments.
Oui, et d'ailleurs, en pratique clinique, en fait, quand on utilise des tests pour évaluer la mémoire, et c'est des tests différents, on utilise des tests qui font appel à ce qu'on appelle la mémoire implicite, où en fait, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de mémoriser, et après, on évalue ce qu'ils ont mémorisé, et des tests où, au contraire, on leur dit « vous allez faire un test de mémoire », on va vous faire apprendre des mots, et là, ils savent qu'ils vont faire la tâche. Donc, c'est bien distingué.
Quelqu'un veut le micro ici ?
Quel est le rôle de la mémoire dans les rêves ?
Rôle de la mémoire dans les rêves, c'est-à-dire quel lien entre le rêve et la mémoire. Sans mémoire, c'est difficile de le savoir. Maintenant, il y a des choses plus curieuses, c'est que dans les rêves, on dit, par exemple, qu'on a, il y a des constructions. Hein. Alors, le rôle des rêves, les rêves sans mémoire, ça paraît difficile à concevoir. Bien qu'on dise, il y a des choses, j'ai vu, je ne sais pas ce que c'est, j'avais jamais vu des gens que je connaissais pas. Mais est-ce que quand on dit, j'ai vu quelqu'un que je connaissais pas? C'est tenable, puisqu'on enregistre plein d'images, et ça, c'est toute l'alchimie. Bah, c'était tout ce qui était justement les travaux sur le premier ouvrage sur les rêves. Le rôle de la mémoire, c'est qu'a priori, c'est une reconstruction, c'est ce que disent les collègues depuis tout à l'heure. Sans aucune mémoire, ce qui est d'abord difficile à concevoir. Il y a dans les rêves, alors il y a essentiellement, il y a deux catégories. Les deux grandes catégories sont ce qu'on appelle les résidus diurnes. Et ça, c'est certainement un rapport dans l'image et dans les sensations. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'images que d'autres sens. Hein. Dans les rêves, c'est surtout l'image. Ça, on a tous, on regarde comme un film dont on est le propre metteur en scène, inconscient. Mais les résidus diurnes, c'est qu'il vous est arrivé sans doute de rêver à des choses qui vous ont préoccupé dans la journée. Ça probablement trait à ce qu'il en est de l'entretien de la mémoire, de la répartition. Maintenant, il y a des rêves fantastiques qui correspondent à aucune préoccupation consciente. Mais dans l'imagerie, puisque c'est quand même l'essentiel des rêves, il y a forcément une mémorisation de quelque chose. On peut inventer, mais on n'invente qu'à partir d'éléments connus, mis quelque part. Alors après, dans l'interprétation, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas le processus mnésique qui est important, d'ailleurs. Hein. C'est l'association que la personne fait entre ce qu'elle rêve, ce qu'elle en raconte, avec la perte au fur et à mesure, qu'on connaît tous, parce qu'on a rêvé de quelque chose, mais au moment de le raconter, on en perd déjà une partie. Et puis, on raconte l'impression qu'on a du récit qu'on fait, parce que l'auditeur, il peut tout noter, mais il n'est pas dedans. Donc, il y a forcément quelque chose qui a à voir, effectivement, avec la mémoire. Maintenant, pourquoi rêve-t-on ? Est-ce que c'est pour entretenir sa mémoire ? Parce que ça, c'est des travaux qui sont assez connus, assez anciens. On suppose qu'il y a des rêves qu'on fait qui entretiennent des capacités instinctives, ontologiques, où on rêve des choses qu'on devrait être capable de faire pour entretenir l'image du mouvement. Enfin, ça, on l'a fait dans les expériences de destruction. On rêve qu'on court, on rêve qu'on vole, ça, apparemment, pas grand monde l'a fait, mais pour autant, ça arrive. À se dire, on le faisait avec des expériences, mais il y a beaucoup plus longtemps, puisque moi, je me souviens de la mort de Kennedy, je suis très, très vieux par rapport à mon voisin. Les expériences il y a 30 ou 40 ans, qui maintenant sont très parlantes. On voyait simplement, tiens, le sujet, on détruisait. Bon, plus chez les animaux, les destructions de zones, hein, sur un plan éthique, Juan, là, effectivement, on n'en parle pas, même chez les condamnés. Mais on voyait qu'il y avait des reproductions de mouvements en rapport avec des imageries racontées, avec une inhibition du mouvement. Parce que le rêveur, à part dans le somnambulisme, qui est une zone intermédiaire, on rêve qu'on court, en général, on n'a pas trop quitté la chambre. Alors, on pouvait se demander s'il ne fallait pas rêver certaines choses pour entretenir les images de mouvement, les images proprioceptives, les images de capacité. Alors là, ça a à voir un peu avec la mémoire de l'humain qui doit reproduire des choses. Mais effectivement, rêver sans mémoire, je n'ai pas l'expérience d'amnésique qui rêve. Oui, mais déjà que les gens disent « je ne me souviens pas de ce que je rêve », alors l'amnésique, là-dedans, c'est un piètre témoin pour mes recherches personnelles.
De fait, on est très inégaux en matière de rêve. Il y a des gens qui se souviennent beaucoup de leurs rêves, quasiment quotidiennement, hein, qui peuvent au matin raconter leurs rêves de nuit. D'autres personnes qui rapportent des souvenirs de rêves extrêmement rarement, voire pas du tout. Hein. Et l'équipe à Lyon a un petit peu essayé de voir quel était le facteur qui expliquait que des gens se souviennent le matin ou pas de leur rêve. Et le marqueur le plus important, c'est le nombre d'éveils dans la nuit. Alors, ce ne sont pas des éveils complets, ce ne sont pas des éveils qui sont mémorisés au matin. Ce sont souvent ce qu'on appelle des micro-réveils, c'est-à-dire simplement des variations un petit peu dans les ondes cérébrales qui montrent que le sujet, il n'est pas en train de dormir, il est réveillé, mais ça va durer quelques secondes, parfois, ça suffit. Et les gens qui sont de nombreux... qui présentent de nombreux éveils dans la nuit, sont des gens qui se souviennent mieux de leurs rêves que les gens qui vont dormir d'une seule traite jusqu'au matin. Ensuite, il y a un bouquin récent, un petit peu là-dessus, d'Isabelle Arnulf, qui s'appelle « Fenêtre sur les rêves », qui est un très bon bouquin, où elle, notamment, elle s'interroge sur pourquoi 80% des rêves sont à connotation négative. C'est-à-dire, sont toujours des rêves... Alors, soit on essaie de fuir quelque chose et puis les jambes ne vont pas assez vite, ou alors il y a un danger qui menace. Enfin, il y a toujours, et 80% de ces rêves-là sont négatifs, et son interprétation à elle est que ce sont des choses en fait, qui sont censées nous préparer à des situations qu'on anticipe. C'est-à-dire que c'est en gros pour essayer de préparer des patterns de réponse comportementale à des situations qui nous menacent éventuellement, etc.
Quand il y a une perte de mémoire liée à un choc émotionnel, est-ce qu'on sait ce qui se passe au niveau du cerveau ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des zones qui sont inhibées ou...
Je ne sais pas, je vais passer la parole à ceux qui peuvent faire une imagerie cérébrale en instantané au moment du choc émotionnel.
Moi, je ne suis pas forcément là au moment du choc. Non, mais par contre, dans les imageries, alors quand on fait une IRM et qu'on regarde sur le plan anatomique, il n'y a pas de lésion. Mais par contre, si on fait des explorations fonctionnelles, il y a en fait des zones qui peuvent moins bien fonctionner. Mais je ne sais pas si c'est forcément pendant le choc, parce que c'est rare qu'on fasse des imageries à ce moment-là. Après le choc, oui. Mais en tout cas, quand il y a des perturbations de la mémoire d'origine psychogène ou post-traumatique, on peut avoir des répercussions oui, sur le fonctionnement.
Pour être plus sérieux, c'est vrai que la réponse de l'ictus tout à l'heure, la suspension de la mémoire, on pense que dans les chocs traumatiques, parce qu'on voit des réactions très, très différentes, hein, dans les chocs collectifs, les catastrophes, là où on a vraiment beaucoup de travaux, médecine de catastrophe, débriefing. Bon. Donc là, il y a aussi probablement des suspensions plus longues, avec restitution a posteriori. Hein. Non, des gens qui, après un choc, ont complètement perdu la mémoire de l'événement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'en est-il de la fonction... protectrice de l'oubli, et ça dans quelle zone cérébrale, bon, ça c'est pas ma spécialité de savoir dans quelle zone cérébrale ça se situe, mais on n'a pas, et ça je te rejoins, des impacts lésionnels visibles dans l'imagerie après un choc, c'est plus probablement, mais là c'est un peu, ça rejoint ce qu'on dit depuis le début avec les collègues neurologues, c'est une probable suspension de l'organisation et qui des circuits suspendus qui reprennent leur activité après. Mais c'est pas de l'ordre du volontaire, ça je tiens à le souligner. La réaction des gens, c'est pas une décision dans l'instantané, hein. Les chocs émotionnels qui suspendent, c'est on ne sait pas le pourquoi. Et on ne sait pas non plus, même si c'est dans l'amygdale, ou, enfin, on a parlé des structures cérébrales, je pense que mes collègues pensent que vous connaissez tous l'anatomie du cerveau, je ne pense pas, c'est avec les schémas, mais on ne sait pas pourquoi telle structure cérébrale choisit de conserver, de suspendre tel souvenir. Ça, c'est notre question. Les zones, c'est vrai que maintenant, on a des représentations, les zones cérébrales, les connexions, ça, c'est visible. Avant, on ne travaillait que par destruction et on voyait ce qui restait quand quelque chose était détruit. Là, par stimulation, mais en revanche, on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet, pour parler de ce qui est quand même important, c'est un sujet qui se souvient, c'est un sujet qui rêve, c'est un sujet qui pense et c'est un sujet qui vit, qu'est-ce qui fait le choix ? À quel niveau le cerveau choisit de garder ou de ne pas garder ? Ça, c'est bon, probablement, suite à un choc émotionnel, c'est un choix du sujet à son insu. C'est pas, je veux pas m'en souvenir, je veux plus me rappeler, faut plus que je m'en souvienne. Alors pour l'apprentissage, je pense que quelqu'un qui doit prendre une leçon, si c'est pas que c'est pour la restituer quelque part... Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'éducation nationale. Maintenant, se souvenir d'un tas de choses qu'on ne voulait pas particulièrement retenir, ça procède de ce qu'on appelle l'hypermnésie ou des capacités mnésiques automatiques, où on se trouve à retenir beaucoup plus facilement que d'autres. Ça a été lu, c'était le cas de mon regretté camarade Cavanagh, qui, quand il était petit, raconte, lui, il lisait tout ce qui tombait sous les yeux, il retenait. Il ne faisait pas à retenir pour le restituer, il y a des capacités... plus grande que d'autres, hein, c'est vrai, mais l'effort d'apprentissage, la motivation, tout ça, effectivement, comme disent les enseignants, c'est le contexte, apprendre à apprendre et la motivation. D'ailleurs, dans la fixation mnésique, le coefficient motivationnel émotionnel, tout le monde a dit, quand il aime bien, quand ça l'intéresse, il retient mieux. peut-être qu'ils s'y intéressent plus.
On revient à l'idée d'intention et de motivation. Je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure. C'est tout l'art de notre travail, c'est d'arriver à captiver notre auditoire et de transmettre en fournissant de la motivation. Alors c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler dans la démarche qu'on appelle maintenant aujourd'hui la démarche de la main à la patte, la démarche d'investigation, où on parle beaucoup du questionnement de l'enfant pour qu'il y ait une motivation, parce qu'on part de sa curiosité. L'enfant, il est curieux de nature, donc on part des questions qu'il se pose, et c'est lui qui va construire avec... l'aide de l'enseignant, bien sûr, qui ne va pas être là pour lui donner, lui transvaser son savoir, mais qui va l'aider à trouver des idées, lui faire émettre des hypothèses, l'aider à imaginer des expériences pour répondre aux questions qui s'est posées. Voilà.
C'est bon. Bon. Tout à l'heure, on a parlé de l'incidence des hypnotiques sur la mémoire. Qu'en est-il des antidépresseurs ? Parce qu'on sait que les déprimes, c'est des maladies assez communes. Alors, quel retour ?
Bon, sur les antidépresseurs, je ne sais pas, un psychiatre va peut-être rebondir sur ce que je vais dire, mais pour moi, ils sont plutôt bénéfiques pour la mémoire s'ils sont bien prescrits. D'abord, ils respectent mieux l'architecture du sommeil. Et en plus, la dépression est délétère pour la mémoire à court terme, parce qu'elle a un effet sur la mémoire de travail et sur la capacité à récupérer les informations, mais également à long terme, parce qu'elle peut être un facteur de risque pour l'installation d'une maladie d'Alzheimer à long terme. Et il y a aussi des troubles qui restent. Quand on retourne à un état d'humeur normal, il y a aussi des troubles cognitifs qui peuvent rester si la dépression n'a pas été bien prise en charge. Donc, pour moi, l'antidépresseur, s'il est bien prescrit et qu'il y a eu une bonne collaboration avec les psychiatres, au contraire, il est protecteur.
Voilà, puis ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la prescription rationnelle, de même que pour les pas de médicaments dangereux en lui-même, sinon on ne le ferait pas. Mais c'est dans la durée, c'est-à-dire que de même que l'hypnotique, l'antidépresseur, ce qu'on cherche à traiter, c'est dans un temps donné. Mais après, ta question, effectivement, sur le long cours, on a à peu près tous maintenant les travaux qui montrent que les psychotropes au long cours, d'ailleurs, on ne les indique pas au long cours, c'est une mauvaise indication. Là, les effets à long terme sont différents, mais à court terme, je rejoins tout à fait la position. Dépression en elle-même pas soignée, toutes les fonctions cognitives étant altérées. Si on suppose que les troubles sont liés à l'état dépressif, c'est un peu une démarche médicale. Si on suppose qu'on connaît la cause et qu'on la traite, a priori, on est plutôt dans le champ de ce qu'on a appris à faire. Mais au long cours, en revanche, maintenir un traitement antidépresseur pendant des années ou pour pas que ça recommence ou que sais-je, là, les effets psychotropes, on est même dans l'incidence des médicaments, des psychotropes au long cours dans l'Alzheimer, c'est ce qui était dit. Là, c'est différent. Mais à court terme, effectivement, c'est plutôt favorable. C'est même ce que les gens soulignent, demandent et constatent. Quand ça marche... Mais ça, c'est, je sais pas, c'est une question pour les pharmaciens. Tu as une idée ?
Alors, il paraît qu'on était premier prescripteur en France pour les antidépresseurs, mais c'est plus le cas parce qu'on s'est fait dépasser par tous les autres pays. Donc, finalement, il fallait peut-être en prescrire quand même.
D'autres questions ? Une micro.
Merci. Une question beaucoup plus simple, on a tous ça à l'esprit, où on oublie un rendez-vous. On oublie parfois certains papas, le plus souvent, oublient d'aller chercher leurs enfants à l'école. Ou bien encore l'exemple de dire « je vais le marquer pour ne pas l'oublier ». Alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces petits oublis au quotidien ? Je ne sais pas si ça peut clore un peu cette discussion.
qui va répondre.
Bon, on a tous des oublis et l'oubli fait partie de la vie. Après, il y a plusieurs manières d'oublier. On a essayé d'en parler. C'est vrai que ça peut être des oublis parce qu'on a rendez-vous avec quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir. Alors, oh, bah, c'est pas de chance, on a oublié. Ça peut être parce qu'on a mal dormi et qu'on a pris un hypnotique pour dormir la veille. Et du coup, ben, on a oublié à cause du médicament et de ses effets. Après, ça peut être aussi le début d'une maladie. Mais les oublis font partie de la vie. Et tant qu'ils n'ont pas de conséquences importantes, ils ne sont pas forcément... je pense que c'est l'entourage et le contexte qui fait qu'on voit si c'est plus ou moins grave.
Petite anecdote de ce que je dis souvent, le type d'oubli dont vous parlez, ça fait référence à ce qu'on appelle, pareil dans notre jargon, la mémoire prospective. C'est-à-dire ne pas oublier de faire quelque chose. Je vais rentrer, alors là je ne peux pas le dire parce que c'est un peu tard, je rentre ce soir, il ne faut pas que j'oublie d'acheter le pain. Et c'est vrai que, et puis j'arrive chez moi, là ce soir c'est un peu raté parce que la boulangerie sera fermée, j'arrive chez moi, j'ai oublié. Et ce type d'oubli-là, on le voit apparaître progressivement, il est plus fréquent avec l'âge, parce qu'à nouveau, c'est des mécanismes attentionnels, d'attention, de ressources, etc. Mais en même temps, ce n'est pas très grave. Tant qu'il reste dans des limites normales, hein, ce n'est pas très grave. Parce que, alors, ce que je dis souvent, pour l'anecdote, pour rigoler, ce n'est pas un fait, c'est que la personne qui est un peu âgée, qui oublie de faire ça, c'est qu'il va lui arriver qu'oublie de prendre le pain, bah, de toute façon, quand elle va rentrer chez elle, elle a besoin de pain, ou elle a oublié d'acheter le sel, elle va aller voir son voisin, ça fait des contacts sociaux, c'est bien, ou elle retourne au boulanger, ça fait de l'exercice physique, c'est bien aussi. Donc, ce n'est pas obligatoirement négatif. Mais bon, c'est un oubli qui est régulier, qui apparaît progressivement et qui est probablement à l'attention. Et quand on est jeune, ça le même type d'oubli, quand vous avez des automatismes, par exemple, en voiture, vous allez tous les jours à votre boulot, vous passez par telle route. Et puis samedi matin, vous allez ailleurs, vous prenez la même route et vous êtes préoccupé par quelque chose, mécanisme attentionnel, et hop, vous vous retrouvez à votre boulot au lieu d'aller faire les courses ou chez votre ami ou ailleurs. C'est exact, c'est un mécanisme similaire, c'est un défaut attentionnel. Qu'on a en mémoire prospective, je suis en train de faire quelque chose et j'oublie. Mais c'est pas, tant qu'il est dans la limite du raisonnable, c'est un mécanisme qu'on voit apparaître et puis voilà. Après, c'est tout.
Encore une question, ça sera probablement la dernière. Où est le micro ? Le micro. Quel micro ? Si vous pouvez, merci, merci.
Alors, bon, je sais qu'il ne faut pas, on n'est pas là pour une consultation personnelle, mais je vais quand même parler de mon cas personnel parce que j'ose espérer que je ne suis pas la seule, sinon c'est grave. Moi, j'ai besoin de faire des listes. Alors, j'ai des listes de partout, des listes au boulot, des listes de courses. Alors, est-ce que je ne dysfonctionne pas ? Est-ce que c'est une sécurité, enfin, que je m'accorde ? Parce que quelque part, je me dis, bon, il ne faut rien oublier. Je suis heureuse quand je barre sur mes listes, quand la journée se déroule. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète pour mon cas ou qu'en dites-vous ?
Je pense qu'on est typiquement dans ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire qu'on a tous forcément pas mal de tâches attentionnelles. On a des ressources attentionnelles qui sont limitées, c'est-à-dire que notre attention, elle peut faire un certain nombre de choses, parfois deux, parfois trois. Bah ensuite, on commence un peu à déraper. À un moment donné, on a un sentiment un peu de débordement attentionnel, on a trop de trucs. Donc, le seul moyen de gérer ça, c'est de poser des choses. Et surtout, ça c'est un facteur aussi de réassurance. C'est-à-dire que ça rassure aussi d'avoir ça. Pourquoi ? Parce que dans notre champ de conscience, qui est donc limité par nos capacités attentionnelles, on peut aussi avoir des choses dont on aimerait bien se passer. C'est-à-dire des préoccupations un peu envahissantes qui sont de l'ordre de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous non plus égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui sont zen, qui font leur truc tranquillement en étant zen. Et puis d'autres qui vont très vite avoir un sentiment de débordement, du truc « j'arrive pas ». J'arrive pas, et puis il y a des trucs qui me tournent un petit peu en boucle et qui sont là et dont j'arrive pas à me débarrasser et qui occupent une partie de mes capacités attentionnelles. Si je suis un peu anxieuse à propos de quelque chose et que j'arrive pas à évacuer cette pensée-là alors que j'ai été mille fois rassuré, ben ça va rester là. Donc la seule façon un peu de m'en sortir et de traiter cet amas d'informations qui est là, qui tourne, qui est envahissante et que j'arrive pas à dégager, ben c'est de poser les choses. Voilà.
Après, en plus, si c'est un mode de fonctionnement qui... Si c'est un mode de fonctionnement qui vous est propre et qui est là depuis longtemps, bah, c'est pas un problème.
c'est votre mode de fonctionnement.
Ouf.
Vous n'êtes pas contente que ce soit pas un psychiatre qui a répondu à votre problème ?
Bien. Là, ce sera une fin plutôt drôle. Je crois que nous n'allons plus prendre de questions, vu l'heure tardive. Et je vais demander à chacun de conclure d'une manière ou d'une autre, et l'un après l'autre. C'est la tradition. Vous concluez comme... voilà. Qui veut commencer ? Moi, je ne sais pas si on va déroger la tradition ou qui veut dire quelque chose, alors ? Pareil ? Bon, moi, j'ai appris des choses. J'espère que vous en avez appris, vous aussi. Vous êtes bien sûr qu'il n'y a pas d'autres trucs, là ? Vous vous étiez dit, avant de venir, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là, non ? Vous avez eu à peu près les réponses aux questions ? Donc nous allons remercier nos intervenants qui ont été particulièrement intéressants. Nous essaierons de trouver des sujets pour les faire revenir. Voilà. Merci beaucoup à vous et bonsoir à tout le monde. Le prochain café, le 13 novembre, le thème c'est la nutrition dans le monde. C'est peut-être pas le... Nourrir le... Excuse-moi.